Et je voudrais remercier Pasteur Jean-Fred de m'avoir fait le privilège d'attaquer cette série de trois messages, hein, sur un livre de la Bible comme les Proverbes. Vraiment, c'est un honneur. Et puisqu'il n'est pas là ce matin, j'ai de moins à vous dire à son sujet, mais j'aimerais bien que ce ne soit pas enregistré, parce que quand même, il ne faudrait pas qu'il le sache, il est occupé ailleurs. Méfiez-vous de notre pasteur principal. Je vous assure que plus je le connais, plus je pense qu'il faut se méfier. Ouais, il y en a trois qui sourient et les autres, ils disent descendez-le de là, coupez le son. Méfiez-vous parce que il a une foi et une joie communicative, contagieuse. Et quand on écoute, quand on parle, quand on traîne trop longtemps avec lui, on a juste envie de se réveiller et de bouger et d'avancer. Alors méfiez-vous quand même. Et une deuxième très bonne raison de se méfier de lui, c'est que si vous faites pas attention, il va nous embaucher tous. On va tous se faire recruter quelque part. Il va nous mettre au boulot si on n'y est pas déjà. Alors soyez prudents, méfiez-vous quand il commence à parler, le service et tout ça, ouais. Ça va aller loin. Et c'est tant mieux, parce que c'est la mission d'un pasteur. Et que d'autres ont fait tellement bien avant. Et c'est notre privilège d'avoir un pasteur qui nous conduit plus loin. Et je vous encourage à l'encourager. Je vous encourage à prier pour lui. Je vous encourage à l'accompagner et à être toujours solidaire. Voilà, il y a des situations comme ça dans la vie, on pense que ça va toujours aller plus mal et ça va continuer de descendre, mais non, c'est pas vrai. À un moment donné, on atteint le point, merci, merveilleux, parce que j'allais passer un mauvais moment, hein. Ça aurait peut-être raccourci le message, mais c'est seul. Bon. Ok, clic suivant, s'il vous plaît. Ah, perles de sagesse. Quelle photo, hein. Vous savez que les perles, ça naît, entre guillemets, ça se développe dans des mollusques qui, au premier coup, vous aimez les huîtres? Alors là, en France, c'est... Et moi, je suis de la bord de Méditerranée, alors, oh là là, les huîtres, ça coûte cher. Mais pas aussi cher que les perles qu'elles produisent parfois. Une fois sur 10 000, nous dit-on, environ, sauf si ce sont des perles de culture. Et perles de sagesse, j'ai bien aimé cette expression. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Alors ceux qui me connaissent bien savent que moi, la technologie, oui, bof, hein, ça dépend. Ça dépend de mon humeur et de la sienne. Mais j'espère que vous êtes impressionnés ce matin. Vous avez un code QR à l'écran et c'est moi qui suis allé le chercher, celui-là. Pourquoi vous riez? Et ça marche. J'aimerais que quelqu'un essaie tout de suite et le premier qui l'a trouvé dise « ça marche ». Ça marche? Bon, on l'a pas entendu. Ça marche? Ça marche. Et vous êtes impressionné, hein? Il y a de quoi. Et il y en aura d'autres. Et il vous amène à une vidéo excellente qui fait partie d'un projet qui s'appelle Bible Project. Et alors, quelquefois, il faut en prendre et en laisser, peut-être, mais c'est excellent, un excellent outil de découverte du livre des Proverbes. Alors, ça marche. Une perle, c'est quand une huître réagit à la présence d'un corps étranger et développe une couche de nacre autour, et puis une deuxième couche, et puis une troisième couche. Et curieusement, ces couches successives s'harmonisent entre elles, s'adapte aux précédentes pour faire finalement une perle parfaitement lisse. C'est un processus incroyable. Dieu a fait de si belles choses dans la nature. Diapo suivante. Est-ce que vous êtes passé place de la Cité récemment? Vous avez peut-être vu une affiche près de la librairie anglaise, la maison anglaise, vous connaissez ? C'est pas pour faire de la pub, hein, mais elle y est à plusieurs endroits dans la galerie. C'est ma femme qui l'a remarqué à la première. Et évidemment, c'est des livres en anglais. Et ils ont eu l'idée très judicieuse de mettre, quand vous y passerez, vous verrez, une photo nulle autre que le livre des Proverbes. En anglais, rien n'est parfait dans ce monde, mais quand même. Moi, mon verset préféré... Ah oui, un autre code QR, vous avez remarqué. Le fruit de l'humilité, c'est mon verset préféré des Proverbes, je pense. Lisez le livre des Proverbes en entier et choisissez au moins un texte qui sera, ou deux, ou dix, les textes qui vous parlent, qui vous accrochent, qui vous interpellent. Il faut le lire par vous-même. Si vous m'écoutez et que vous allez écouter Pasteur Jean-Fred en disant « Ah ben oui, on va tout savoir sur le livre des Proverbes », vous manquez de sagesse. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pas plus que en lisant un dévotionnel, on ne devient pas dévot ou pieux pour autant. Il faut faire son propre cheminement. Et notre raison d'être, c'est de vous ramener à lire, à découvrir, à explorer la Bible, parole de Dieu. En tout cas, c'est ma conviction. Alors moi, le mien, c'est 22:4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, et c'est la richesse, la gloire et la vie. C'est pas quelque chose, ça ? Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et le code QR va vous amener sur un chant. Alors là, c'est de... Vous aimeriez l'entendre ? Oui ? Vous aimeriez l'entendre ? Ben, vous ne l'entendrez pas ce matin. Il faudra aller sur code QR. Ouais, ouais, il faut bien les faire travailler un peu. Non. Qu'est-ce que la sagesse ? Il y a toutes sortes de définitions, hein. Qualité d'une personne qui discerne et choisit ce qui convient le mieux dans la conduite de sa vie, qui agit avec bon sens. Je trouve que la notion de bon sens, hein, c'est un bon synonyme. Finalement, il y a une banque en France pendant des années qui avait trouvé un bon slogan. Je sais pas si c'était le Crédit Agricole qui disait « Le bon sens près de chez vous ». Le bon sens près de chez vous. Ouais, il n'est pas toujours près de chez nous. Hein. Surtout si on ne va pas dans le bon sens. Et qu'on s'égare. D'ailleurs, c'est la définition du péché. Hein. C'est faire fausse route jusqu'au moment où on en prend conscience et où on veut faire demi-tour ou laisser notre GPS se réinitialiser pour nous ramener sur le bon chemin. La sagesse, c'est envisager nos choix, nos pensées, nos paroles, nos actes à la lumière incommensurable de la grâce incomparable de notre Créateur. Oula, ça en fait des choses. Évaluer, considérer. Dans un monde de précipitation, de plus en plus, on a besoin d'apprendre à considérer, à envisager, à réfléchir. Ça va pas être facile avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, j'ai remarqué que le mot artificiel, parmi ses contraires, il y a authentique, véritable, vrai. Alors je me demande bien où tout cela va mener. Mais vous direz, vous êtes vieux, tu es vieux, donc c'est normal. Ça passera quand tu passeras. Méfiez-vous quand même. Les hommes jouent avec le feu depuis toujours et qu'on ne me dise pas que c'est un changement de plus anodin. C'est un substitut de réflexion, en tout cas poussé à l'extrême. Pourquoi je parle de ça là ? On est là dans les proverbes, un peu de sagesse. Le livre des proverbes, disais-je, est constitué de plusieurs, c'est une collection de collections, disent certains commentateurs. C'est-à-dire, en fait, c'est très, c'est un petit peu broche à foin. Vous avez remarqué? Vous avez lu? Ouh là là! Difficile de faire un plan. Et je vais vous dire deux bonnes raisons pour lesquelles, selon moi et d'autres, c'est un peu broche à foin, le livre du Proverbe. La première, c'est que nos vies sont broche à foin. Pas mal. Notre tête, notre cerveau, nos réflexions, ça part. Est-ce que je suis le seul dans cette salle et au moins en ligne, il y aura quelqu'un pour dire « oui, moi aussi », non ? Ou au balcon, il y a quelqu'un qui peut dire « moi aussi, je suis broche à foin ». Ah oui, alors pour les Français qui nous écoutent, et notre amie Marie en particulier, ça c'est un clin d'œil, mais de la part de ma femme, mais... broche à foin, ça veut dire ça part dans tous les sens, quoi. Hein, c'est ça un peu. Hein. Alors pourquoi Dieu nous parlerait pas notre langue? C'est ce qu'il fait toujours. Alors ben voilà, on peut aller où qu'on veut, où qu'on veuille dans le livre des Proverbes. Il y aura toujours des choses qui ne nous touchent pas directement. Même mes amis, il y en a d'autres, vous allez les avoir en pleine face. Lisez un chapitre des Proverbes à la fois et ouf. Soyez attentifs et Dieu va vous parler. C'est intéressant parce que en réalité, on pense que ce livre a été écrit sur une période de jusqu'à 250 ans, de Salomon à Gur et les quelques autres auteurs. C'est un livre, mais il n'a pas été écrit comme ça en une semaine sur le coin d'une table. C'est tout un recueil de traditions, de maximes. D'analogies, d'antithèses, de contrastes qui vont tous azimuts. Ah oui, je disais qu'il y avait deux raisons. Je suis tellement broche à foin que je ne retrouve plus dans mes notes. Oui, nos vies sont un peu comme un casse-tête, c'est comme ça. Alors, ben, Dieu nous parle notre langue. Et la deuxième raison, quelqu'un a dit ça avec une pointe d'humour, c'est pour nous obliger à ne pas toujours lire les thèmes que nous préférons. Et ça, c'est pas mal. Vous avez remarqué qu'on a tous des thèmes qu'on préfère lire dans la Bible. Ah, ben, j'aime l'amour. J'aime les psaumes, certains psaumes. Si vous les aimez comme ça, de manière uniforme, c'est que vous les avez peut-être pas tous lus. Il y en a qui sont pas très aimables, pas très commodes. Mais, ça parle de tout. Et tôt ou tard, si vous lisez les Proverbes, vous allez vous retrouver face à vous-même, face à un défi. Et c'est tant mieux, et c'est tant mieux. C'est pas étonnant qu'il y soit beaucoup question de de communication, de pouvoir, de sexe et d'argent, dans l'ordre que vous voudrez. La Bible appelle les choses par leur nom, et c'est très bien comme ça. La sagesse. On aimerait penser qu'avec l'expérience... D'ailleurs, je soupçonne pasteur Jean-Fred d'avoir demandé à un vieux de faire le premier message, justement peut-être pour faire la démonstration que non, la solution, c'est pas l'expérience. Et il a raison. Enfin, il aurait raison. Il est trop bon pour avoir eu cette arrière-pensée. Vous l'avez eu aussi, hein. Job, chapitre 32... Je le lis, ce sera pas à l'écran. Job 32 dit ceci. C'est le dernier ami de Job et c'est le seul à qui Dieu n'ait pas fait de reproche. Donc il devait y avoir du vrai dans ce qu'il dit. Il dit, ben, je suis jeune et vous êtes des vieillards. Merci. Voilà pourquoi j'étais intimidé et j'avais peur de répliquer pour donner mon opinion. Je me disais, l'expérience parlera, le grand nombre d'années fera connaître la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Un vrai pentecôtiste avant l'heure. C'est incroyable. On est dans le livre de Job. On dit que c'est peut-être le livre le plus ancien de la Bible. Peut-être même que la Genèse. Enfin, c'est tout un sujet. Mais il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant. Qui donne la capacité de comprendre. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous ce matin aussi. Alors oui, l'expérience a du poids quand même. Mais c'est pas tout. C'est pas le grand nombre d'années, dit-il, qui procure la sagesse. C'est pas la vieillesse qui permet de discerner ce qui est juste. Voilà pourquoi je dis, écoute-moi, moi aussi, je vais exprimer mon opinion. Et il y est allé sur les médias sociaux et tout ça, c'est parti dans tous les sens. L'expérience, c'est une chose, la sagesse, c'en est une autre. L'expérience peut en faire partie. Mais d'ailleurs, on va aller à notre texte suivant, diapo suivante, voilà. Proverbes, chapitre 1er, verset 1 à 9, qui dit ceci, proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, c'est-à-dire tout le monde, hein, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Waouh ! Si c'est vrai tout ça, il faut le lire, le livre des Proverbes. Et il faut le lire seul dans sa chambre, ou dans son bureau, ou dans son bus, ou mais pas au téléphone en conduisant. Il faut le lire, et il faut le relire, il faut le méditer, il faut y réfléchir. Parce que qui n'a pas besoin de sagesse ? On a désespérément besoin de sagesse dans ce monde de fous dont nous sommes. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Bossuet, qui était un éminent prédicateur à la cour en France, au XVIIe siècle, a dit cette parole sévère, mais vraie. Il a dit « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. » Je relis. « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. » Ça travaille, le petit moulinet ? Eh oui, il se rit, non pas qu'il se moque des hommes, je crois pas, mais il se rit de la folie des hommes, mais il en pleure aussi. Il en a pleuré aussi en la personne de Jésus-Christ, qui est allé jusqu'à la croix. Alors c'est Salomon, le principal auteur des Proverbes. Très rapidement, une remarque avant Salomon. Fascinant les choses quand on lit la Bible en suivant, c'est fascinant les choses qu'on rencontre et qu'on découvre. Par exemple, dans Deutéronome 4, ce sera pas à l'écran. J'ai essayé de pas trop en mettre à l'écran parce que sinon c'est très broche à foin avec moi. Mais Deutéronome 4 dit, vous respecterez les prescriptions et les règles que l'Éternel vous a ordonnées. Ce sera votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Écoutez bien, écoutez bien. Et lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront, cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. Seulement, fais bien attention à toi. Veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie. Vous vous rendez compte ? Le monde voit le peuple d'Israël de l'époque. Et dans une certaine mesure, c'est encore vrai aujourd'hui, dans une certaine mesure. Et il s'extasiait, il pouvait, il devait pouvoir s'extasier en disant « Waouh, qu'est-ce qu'ils sont bons, qu'est-ce qu'ils sont intelligents, quelle sagesse !» D'ailleurs, c'est ce qu'ils font chaque fois qu'ils nous voient venir à l'église le dimanche. Le monde est en extase. « Oh, qu'est-ce qu'ils sont bons !» Vous riez pas, vous réagissez pas, c'est mauvais, ça. Ouais. Ben, je sais pas, mais Seigneur permet qu'il y ait quelque chose de cela dans nos vies qui fasse que quand les gens nous voient, ils disent pas, qu'est-ce qu'ils sont flyés, ces chrétiens pentecôtistes, mais qu'ils disent plutôt, waouh, ils en ont là, ils savent s'en servir. Une intelligence renouvelée, une manière d'aborder les problèmes. Ils n'ont pas la réponse à tout, ils le savent, ils le disent, mais qu'est-ce qu'ils sont perspicaces, qu'est-ce qu'ils ont une bonne analyse des choses. Ô Seigneur, accorde-nous ta sagesse dans un monde de fous. Alors, Salomon était bien de cet avis quand il a demandé à Dieu la sagesse. Il a dit, Seigneur, comment est-ce que je deviens un roi et comment veux-tu que j'ai la sagesse en moi-même nécessaire pour faire tout cela? Alors, il a demandé la sagesse et il l'a obtenue, la sagesse. La sagesse, non pas fruit de l'accumulation de son expérience, il était tout jeune, mais don de Dieu, vraiment. Cette demande de Salomon plut à Dieu, qui lui donna une sagesse exceptionnelle, très grande intelligence et une large ouverture d'esprit. La Bible parle d'ouverture d'esprit. C'est bien. Hein? Premier livre des Rois, chapitre 5. Et il continue en disant qu'il s'intéressait à toutes sortes de sujets et que sa sagesse dépassait celle de tous les sages de l'Orient et de l'Égypte. Il fut l'auteur de 3000 proverbes. Alors vous vous rendez compte, vous n'avez pas le quart de la moitié là. 3000 proverbes et composa 1005 chants. C'est intéressant la précision biblique. Hein, de temps en temps, comme ça, il y a des choses. On pouvait compter. Et 1005, roi d'Israël, il avait le temps de composer des chants. Il y a de l'espoir pour nos chantres et nos musiciens là. D'ailleurs, en passant, je les encourage, hein, on chante beaucoup trop de... On peut effacer ça aussi. On chante des chants sublimes, hein, je pèse mes mots, traduits de l'anglais, mais vous avez tout ce qu'il faut, plusieurs d'entre vous, vous avez tout ce qu'il faut pour composer vous-même des chants en français. Et vive le Québec libre. Non, c'est une blague. Quoique, c'est parce que j'ai lu les nouvelles et que le Premier ministre de la France était là pendant 3 jours, hein, notre Premier ministre, tout jeune Premier ministre, qui représente notre président tout jeune aussi, et puis qui font peut-être pas si mauvais travail que ça. Et puis, y en a qui auraient aimé qu'ils le disent, hein, qu'ils le redisent. Mais, revenons à Salomon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Salomon ? Un roi, chapitre 11, à l'époque de sa vieillesse, comme quoi la vieillesse, c'est pas toujours une garantie de sagesse. Ses femmes entraînèrent son cœur. Ah ben oui, c'est la faute des femmes. Je le savais. Ils entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu. Non, c'était pas la faute de ses femmes. C'est lui qui n'était pas censé en avoir autant. Même si la monogamie, ça n'a pas toujours été le cas, même en Israël, mais Dieu avait mis en garde que ce n'était pas une bonne idée, la polygamie. Et puis surtout, il les a, même en admettant que ce soit toléré par le Seigneur, il les a mal choisies parce qu'elles venaient de lieux et de contextes culturels et religieux complètement à l'opposé. Donc le problème, il est là. C'est pas le problème des femmes. Je veux sortir d'ici vivant. Et je veux manger à la maison, à midi. Rapidement, diapo suivante, s'il vous plaît. Une clé, 3 fenêtres et 1 porte. Et après, on prend la porte, ça va ? Pas tout de suite. Alors, la clé. La clé, diapo suivante, c'est la clé de la sagesse, c'est une saine crainte de Dieu. La sagesse vaut plus que les perles, plus que les perles. Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. C'est pas juste que ça va avec. C'est même pas juste des perles de sagesse, c'est la sagesse. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. J'espère que, comme moi, vous désirez ce matin laisser la parole vous interpeller, parce que on peut lire des textes comme ça à n'en plus finir, mais est-ce qu'on laisse l'eau de la parole de Dieu pénétrer nos cœurs, notre conscience, notre volonté. Psaume 130, si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne.
Waouh! Comment?
Il nous pardonne pour qu'on le craigne? Partez pas si vite. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. 15, 16, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Et le verset qui précède est un de mes préférés qui dit « Le cœur content est un festin perpétuel. » Wow. Proverbe 15, 15. La leçon, la notion de contentement qu'on retrouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, parce qu'il y a toujours un lien avec le Nouveau Testament dans les enseignements de l'Ancien. Et il faut le chercher, ce lien. Et on y revient dans un instant. Proverbe 24, 21. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Pourtant, le roi n'était pas toujours très moral ou très recommandé ou très. Mais ça veut dire que ceux qui dirigent craignent l'autorité. Heureusement, diront certains, on est sous la nouvelle alliance. Hein. On est après Jésus-Christ, donc tout ça, hop. Au panier, à la corbeille, c'est fini, c'est réglé, supprimé. On clique pour vider les choses dans la poubelle. Et après, il ne faut pas oublier de vider la poubelle. Hein. C'est important quand on est sûr de vouloir le faire. Mais malheureusement ou heureusement, le thème se poursuit dans le Nouveau Testament. Trois exemples sur la diapo suivante. Acte 9, 31, on est en plein dans la naissance, la croissance de l'Église. Et qu'est-ce qu'il est dit? L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur. Et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Colossiens 3, 22, serviteurs, ça veut dire employés, hein, c'est pas forcément des esclaves. Obéissez en tout à vos maîtres terrestres et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Et un dernier texte radical, parmi d'autres, Hébreux 12, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Et tout le monde dit, oh, moi je dis, comment? Un feu dévorant? Et pourtant il s'adresse à des chrétiens. L'éclipse, ah, il fallait bien que quelqu'un nous parle, l'éclipse encore. Nous, on était à Rimouski lundi dernier, et on a choisi de prendre aucun risque, on était dans notre... Écoutez, je vous l'avoue, dans notre chambre d'hôtel, on s'est dit, on avait une grande fenêtre, on en verra bien assez. L'éclipse s'est éclipsée. Il n'y avait pratiquement rien. On n'a pratiquement rien vu. Elle était partielle à Rimouski. Il semble qu'à Québec, elle était plus forte. Alors, je suis allé me plaindre aux autorités, parce que c'est toujours la faute du gouvernement. Hein. Et je suis allé me plaindre. Hein, et on m'a dit, monsieur, ne vous inquiétez pas, elle revient dans une centaine d'années. Donc, il suffit de vous représenter. Alors, j'ai remercié, j'ai dit, c'est merveilleux. Mais ceci dit, on nous a tellement mis en garde, au point que les écoles ont fermé ou ont empêché les gamins de sortir, parce que justement, il y avait un réel risque de se brûler les yeux, c'est le cas de le dire, au sens propre. Et c'est vrai que c'est très dangereux pour un moment comme ça. La clarté du soleil, la luminosité, la force du soleil est une puissance incroyable. Et mes amis, on nous dit qu'il y en a, sauf erreur, des milliards de soleils dans l'univers. Vous ne comprenez pas. Je suis sûr que vous ne comprenez pas. Et moi, encore moins. Ce que ça représente, l'immensité de l'univers. Et si on n'est même pas capable de soutenir du regard, le contact visuel avec notre petit soleil à nous, là, de notre galaxie, imaginez rencontrer celui qui a créé tout ça. Et vous voulez pas le craindre? Vous voulez pas le craindre? Alors, tout de suite, on va se rassurer nous-mêmes. Oui, mais craindre, ça veut dire respecter, ça veut dire vénérer, ça veut dire... Ouais, ouais. Je reviens toujours à Jean dans l'Apocalypse, Jean qui était le plus proche disciple de Jésus. Hein. Quand il va le voir, excusez-moi, j'allais dire en chair et en os, c'était vrai. Quand il va le voir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber à terre. Il va tomber à terre, pétrifié. Et le Seigneur va le relever. La crainte de Dieu, c'est le respect. Chaque fois que je m'approche de Dieu, je dois le faire avec respect. Et ça doit se traduire dans les faits. Ça doit se traduire dans les mots qu'on emploie et dans les mots qu'on n'emploie pas. Ça doit se traduire dans mes réactions, dans mes attitudes, dans mon comportement. Mais c'est aussi le respect, la révérence qui se convertit, j'allais dire, en admiration et en adoration. Parce que ce même Dieu craignable, c'est ce Dieu incroyable qui a donné son Fils Jésus-Christ, qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, qu'il a fait de nous ses enfants. Et nous pouvons dire, oui, nous ne le craignons plus. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Et on l'adore d'autant plus qu'on réalise à quel point il est grand. On l'adore d'autant mieux quand on prend conscience de toute la splendeur de son être. Amen. J'espère. Alors, cherchons pas toujours à relativiser les choses, hein, à relativiser les mots. Ils ont leur poids, ils ont leur valeur, ils ont leur charge émotionnelle, comme on dit. Ils ont leur charge tout court. Ils veulent dire quelque chose. Le mot péché, ça veut dire péché. Le mot gloire, ça veut dire gloire. Le mot grâce, ça veut dire grâce. Diapo suivante. Vous pouvez le lire avec moi ? On va tester votre acuité visuelle. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alors allons à la fenêtre, rapidement. Premièrement, première fenêtre, la sagesse est une source de joie et de plénitude. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et qui possède l'intelligence. Heureux ceux qui persévèrent dans mes voies. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. C'est, la sagesse de Dieu, c'est pas quelque chose d'austère et d'ennuyeux et de rébarbatif. C'est quelque chose de glorieux, de grandiose, de grand. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte la loi, il est heureux. Et la révélation dont il s'agit ici n'a rien à voir avec quelques fantaisies subjectives et approximatives. Ça a à voir avec la révélation de Dieu à travers le message de sa parole, même si nous croyons en la prophétie, qui est un pâle reflet de la révélation divine dans les Écritures. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et là, on fait le lien avec le Nouveau Testament. Martin Luther, le réformateur, a écrit ceci. Avec cette parole de Dieu, vous êtes riches et rien ne vous manque, car en elle est la vie, la vérité, la lumière, la paix, la justice, le salut, la joie, la liberté, la sagesse, la vertu, la grâce, la gloire et la félicité sans mesure. Waouh. Fenêtre suivante. Merci. Les bienfaits, alors c'est tout à fait arbitraire, hein, j'ai choisi ces fenêtres-là, mais il y avait tellement de fenêtres sur la richesse du livre des Proverbes, mais il fallait bien commencer quelque part et puis en laisser pour pasteur Jean-Fred. C'est pas difficile d'en laisser. Les bienfaits de la maîtrise de soi. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Littéralement, être maître de soi-même en hébreu, ça veut dire celui qui domine sur son propre esprit. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on se contrôle de moins en moins. C'est les émotions. Ah, ça oui, c'est les émotions. Et puis, pourquoi tant de réactions impulsives, d'actes de violence impulsifs? Et ces jours-ci en ont eu leur lot. Il y en aura d'autres. Oh Seigneur, seul l'Esprit de Dieu dans un cœur transformé, régénéré par la grâce, peut vraiment apprendre à vivre dans la maîtrise de soi. En passant, c'est le fruit de l'Esprit, la maîtrise de soi. Et si ce matin vous êtes là et puis, ouf, maîtrise de soi, maîtrise de quoi ? Vous sentez que vous êtes complètement hors de contrôle. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Dites-lui pardon, Seigneur, et purifie-moi, et enseigne-moi, et montre-moi par où commencer, parce que je veux changer. Je veux t'honorer avec ma vie. Une ville démantelée, sans murailles, voilà ce qui est l'homme qui n'est pas maître de lui-même, qui n'a point de retenue pour son esprit. L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Remarquez qu'il n'y a qu'un fruit, hein, c'est différentes facettes. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité ou la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça termine par là. L'amour, ça commence par l'amour et ça finit par la maîtrise de soi. Là où il n'y a pas de maîtrise de soi, il y a besoin de travailler l'amour. Parce que ça va ensemble. Et puis, fenêtre suivante. Vous êtes toujours avec moi ? Oui, parce que je ne vois pas trop là. Les bienfaits physiques de la sagesse. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Ne te prends pas pour sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Tiens donc. Garde mes paroles et mes discours au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. Les paroles agréables sont un rayon de miel, elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Et puis, un bon dans le Nouveau Testament, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante de juste a une grande efficacité. Il y a quelque chose là, il y a... Alors, est-ce que si j'ai des problèmes avec mes os ou d'autres choses, c'est parce que je suis pas un bon chrétien? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait qu'un siècle et demi, sauf erreur, qu'on parle de maladies psychosomatiques. C'est une découverte toute récente, en tout cas dans la forme où on en parle aujourd'hui. C'est récent tout ça. Et la Bible, il y a quasiment 3000 ans en arrière, nous parle de ces choses. Est-ce que ça veut dire que toutes nos maladies sont liées à l'état de notre âme, à notre péché, à notre mauvaise nature? Non, mille fois non. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même un lien et une influence? Oui, mille fois oui. Alors la guérison, c'est un vaste sujet. Et je suis le plus mal placé pour en parler, parce que on peut tout dire et son contraire. Mais la certitude que, parce que le livre des Proverbes, c'est pas un livre de, là peut-être ça va vous titiller, mais c'est pas un livre de commandements en tant que tel. Les Proverbes, du moins, sont plus des constats, des constatations qui sont faites. Ben voilà, quand on fait ça, il se passe ça. C'est plus cela que vraiment des vérités absolues en tout temps, en toutes circonstances. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce qu'on vient de lire, c'est bel et bien écrit, qu'un esprit renouvelé dans la joie, dans la foi, dans l'amour, dans le respect des autres, dans la paix, dans la confiance, c'est autant, j'allais dire, de bonnes vitamines. Moi, je prends des vitamines tous les jours, entre autres. Je sais que ma femme m'aime, parce que depuis le temps, avec tout ce que je prends comme pilule tous les jours, si elle avait voulu m'empoisonner, elle avait l'embarras du choix. Mais je suis toujours là, preuve de l'amour de ma femme. Mais mes amis, c'est pas ça qui me tient debout, c'est la grâce de Dieu. Et puis, mais ça y contribue sans doute quelque part. Et Dieu merci pour les médecins et la médecine. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes connaissants dans le domaine médical. Quand vous entendez ces versets, vous dites « Ah ben oui, c'est sûr qu'il y a du vrai là-dedans. » Alors, non, c'est pas une guérison garantie, systématique, accordée d'avance, ici, qu'on trouve dans ces versets. Mais c'est des poteaux indicateurs, c'est des recommandations. Si vous prenez un peu de vitamine C, ça vous fera du bien, ça vous fera pas de mal. Si vous prenez un peu de potassium, ça, pour beaucoup d'entre nous, ça sera une bonne chose. Faisons ce qui contribue à la santé de notre âme, notre corps, notre esprit. Un cœur paisible est la vie du corps. Je relisais un site médical sur le chéri, aide-moi. Je t'entends pas. L'hypertension est un site médical. Et la première recommandation, c'est méditation, relaxation. Mais c'est pas une pilule, ça. Ça règle pas mon problème. Ben si, ça y contribue. Et on parle même pas dans le contexte chrétien. Et à combien plus forte raison, pour nous, enfants de Dieu, on a ce privilège de pouvoir dire, Seigneur, je veux m'apprendre à me détendre, à me reposer, à me poser sur toi. Sois mon ancre et sois ma voile. Seigneur, je te prie pour que quiconque au milieu de nous a le cœur chargé, lourd et peut-être aigri à cause de situations qu'il a vécues, puisse lâcher prise et s'en remettre à toi. Et pourquoi pas, peut-être bien, être guéri dans son corps. Je te prie pour ceux qui sont angoissés, stressés, exaspérés par toutes sortes de choses. Viens les apaiser au nom de Jésus. Et que ce soit la vie de leur corps. Je te prie pour ceux qui vivent dans des contextes de dureté, de paroles désagréables, agressives, au travail ou à la maison. Oh, fais leur grâce, Seigneur. La grâce de ne pas suivre ce courant-là, mais d'avoir des réponses, des paroles douces qui seront porteuses de guérison pour son corps. Pour leur corps, pour celui qui est abattu, accorde-lui un cœur joyeux, une joie renouvelée, la joie de te connaître, la joie de t'aimer. Amen. Et on arrive presque au bout, parce que ce n'était pas la prière finale, pour vous rappeler avec une emphase tardive que, on a parlé de clé, on a parlé de fenêtre, mais il n'y a qu'une seule porte. Diapo suivante, c'est Jésus. Et le chapitre 8, vous le lirez tranquillement chez vous, si vous voulez, est une bonne indication. On voit que la sagesse y est personnifiée. On pourrait dire que dans l'Ancien Testament, Dieu le Fils, la sagesse est personnifiée et dans le nouveau, elle est incarnée par la personne de Jésus-Christ. Et le deuxième paragraphe dit que lors de la création, la sagesse faisait tous les jours le plaisir du Père, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde, sur sa terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui persévèrent dans mes voies. Écoutez l'instruction. Et persévérer. Alors, clic suivant, diapo suivante, c'est Jésus qui est notre porte, la porte des brebis. C'est lui, si vous pensez 2 minutes que vous allez pouvoir accéder à cette sagesse par vos propres forces, vous allez être déçus. Alors arrêtez tout de suite. mais plutôt puissiez-vous dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je me confie en toi. Ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par ma force, mais c'est par ta grâce. Avez-vous donné votre vie au Seigneur? Vous êtes-vous repenti? On va aller un peu plus loin. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et encore plus loin. Et encore plus loin. Voilà ce que c'est que d'être bavard. Hein. Jacques, on connaît bien ses paroles. Si l'un de vous manque de sagesse, moi je trouve qu'il a un humour génial, cet homme. Ah, est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la salle? On est quelques centaines. Est-ce qu'il se pourrait qu'aujourd'hui, il y ait quelqu'un qui manque de sagesse? Est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui ne manque pas de sagesse? C'est plutôt ça la vraie question. Moi, ça me fait... Ben alors qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande à Dieu. Qu'il donne à tous simplement et sans faire de reproche. Lequel parmi vous... Il a vraiment le sens de l'humour. Lequel parmi vous est sage et intelligent et humble, tant qu'on y est? Qu'il lève la main. Ah non, non, mais c'est pas la peine de lever la main. Qu'il le montre. Qu'il le montre. Qui le montre par ses attitudes, par ses réactions. Parce que la sagesse d'en haut est d'abord pure, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion, etc. J'aime pas dire etc. quand je lis un texte de la Bible, parce que c'est juste que je suis trop bavard et je lui laisse pas la place qui lui revient. Mais bon, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent la paix. Et puis, clic suivant. Premier pas vers la sagesse. Chapitre 1er, verset 23 dit « Revenez pour écouter mes reproches. » Ça vous donne envie de revenir pour écouter des reproches? Non, mais non, merci. Si votre femme ou votre mari dit « Ah, tu peux repasser à la maison, s'il te plaît, j'ai des reproches à te faire. » Ah, ben justement, je suis pris dans le trafic. La repentance, le retour sur soi, le retour vers Dieu. C.S. Lewis, un grand auteur anglais, a dit ceci. Si je suis une prairie, si j'étais une prairie, me faucher réduira l'herbe, hein, mais ne me permettra pas de produire du blé. Mais si je veux du blé, je dois être labouré et ensemencé. Se repentir, c'est passer de, ça c'est pas de lui, mais se repentir, c'est passer de, je reconnais que j'ai péché, ah, je reconnais que je suis pécheur. C'est pas juste que j'ai fait des bêtises, c'est pas juste que j'ai pas été parfait, c'est que je suis profondément ancré dans le péché. J'ai besoin de toi. Fais de moi une nouvelle créature. Si vous n'avez jamais prié comme cela, faites-le aujourd'hui. Faites-le aujourd'hui. Et si vous êtes chrétien, alors, pas diapo suivante. La repentance, la dépendance, « Je veux déverser mon esprit sur vous. » C'est dans les Proverbes. C'est beau, hein ?« Je veux déverser mon esprit sur vous. » Et ils veulent le faire ce matin. L'obéissance. « Obéis à mes commandements et tu vivras. » Et la persévérance. Chapitre 10, on est toujours dans les Proverbes. Hein « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Ça, c'est un texte qui m'a souvent interpellé. « Celui qui se relâche dans la foi est frère de celui qui détruit. » Se relâcher, c'est descendre, c'est perdre ce que l'on a. Et qui veut perdre cela? Quand il a trouvé la richesse, la gloire, le privilège de connaître son Dieu. Diapo suivante. Allez, puis on va prier. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers vous, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Waouh, waouh, waouh. Seigneur, ta grâce. J'ai envie de terminer ce moment en vous proposant un petit chant bien simple qui tourne en boucle dans mon esprit. Et j'espère, d'ailleurs c'était presque mot pour mot dans le dernier chant qu'on a fait avant la prédication. Alors vous pouvez écouter puis en faire votre prière. Règne en moi, roi puissant, règne en moi. Règne en moi, roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur, viens régner Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi, oui Seigneur, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi, maîtrise mon cœur, viens régner Seigneur. Que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant. Oh Seigneur, viens régner en nous, sur nos craintes, sur nos folies parfois, sur nos égarements, sur nos mauvaises pensées. Oh Seigneur, sur tant de choses qui essaient de nous envahir, nous voulons te laisser régner. Ton règne est un justice, est un royaume de justice, de joie et de paix. Alors Seigneur, glorifie-toi. Si c'est votre prière, je vous invite à vous lever à votre place et à le reprendre une dernière fois avec moi, avant de laisser la place à l'équipe. Règne en moi, roi puissant, règne en moi.
Puissant, règne en moi. soit faite à jamais. Que ta volonté soit faite à jamais.
Seigneur, hallelujah, gloire à toi.